Mes bien chers amis, le grand homme d'État, Salazar, disait un jour, « La politique internationale est pleine d'hypocrisie. » Et c'est vrai. Hypocrisie, pas seulement de la part des gouvernements, mais aussi hypocrisie, mensonge, lavage de cerveau, confusion des esprits, de la part des grands organes de diffusion, journaux, radios, télévisions, sur cette question de politique étrangère. Publicité accordée à des déclarations faites sur des tribunes publiques ou à des communiqués de groupes de diverses dénominations du même esprit. Tout cela comme sorti d'une même source, source empoisonnée, mais enrobant son poison de sophismes capteurs, voire même de slogans à résonance évangélique. Si bien que la multitude s'y laisse prendre et croit entendre la voix de la conscience universelle. S'agit-il de la guerre en cours au Vietnam? La grande voix dénonce les Américains comme agresseurs, alors que le véritable agresseur, c'est le Vietnam Nord. Ce sont les guérilleros du Viet Cong, recrutés, entraînés et armés dans le Vietnam Nord. Et ce sont les bataillons de l'armée régulière du Vietnam Nord, envoyés contre le Vietnam Sud, par le gouvernement communiste du Vietnam Nord. Les Américains ne sont nullement au Vietnam Sud comme envahisseurs. Ils sont venus là pour répondre à l'appel au secours qui leur a été fait par le gouvernement du pays victime de l'agression communiste venue du Nord. Si une bombe américaine fait par erreur quelques victimes civiles, la voix de la conscience universelle le crie à tout l'univers. Mais pas un modèle contre le Viet Cong qui a égorgé ou éventré plus de 20 000 civils pour terroriser le reste de la population ou pour s'emparer de biens qu'il ne pouvait obtenir sur seule sommation. Or, cette même voix qui clame pour la paix au Vietnam réclame une guerre économique, militaire même s'il le faut, contre la Rhodésie, un pays qui n'a jamais molesté ni menacé un seul voisin. Pourquoi cette différence? La différence n'est qu'apparente. Quand la voix crie « paix au Vietnam », cela veut dire « ouverture au cyclone communiste ». Et quand la voix crie « sus à la Rhodésie », cela veut dire « ouverture à l'influence communiste non seulement sur la Rhodésie, mais sur tout le sud de l'Afrique, portion la plus riche et la plus stratégique de tout le continent ». Dans cette émission, c'est l'affaire rhodésienne dont il va être question. On pourra parler du Vietnam une autre fois. Si vous jetez un regard sur la carte de l'Afrique, vous voyez que la Rhodésie est située dans la partie australe de ce continent. Elle ne touche pas à l'océan Indien, mais elle peut y accéder par le Mozambique, province africaine du Portugal. À l'ouest se trouve une autre province portugaise, l'Angola, sur le littoral atlantique. Au sud, la Rhodésie a une frontière commune avec l'Union sud-africaine qui, elle, est baignée par les deux océans. Les quatre pays que je viens de nommer, le Mozambique, l'Angola, l'Union sud-africaine et la Rhodésie elle-même, forment la partie la plus développée, la plus prospère, la mieux ordonnée, la plus stable politiquement de tout le continent noir au sud du Sahara. Cette Afrique australe fait contraste avec le spectacle offert par la trentaine de territoires, improprement appelés nations, récemment promus à l'indépendance, où l'on ne compte plus les rébellions, les coups d'État, les successions de dictatures, les meurtres politiques, les guerres tribales, avec accompagnement de ruines matérielles, de tortures et d'exécutions sans procès, climat de désordre éminemment propice à la poussée du communisme, soit par des agents de l'extérieur, soit par des agitateurs locaux ayant reçu formation et entraînement dans des centres établis à cette fin en Russie, en Tchécoslovaquie, dans la Chine de Mao ou dans le Cuba de Castro. Or, que constate-t-on? Alors que tout le monde libre devrait rendre hommage aux quatre pays qui constituent en Afrique une barrière contre la progression du communisme, le monde libre entre dans le concert des voix qui dénoncent les gouvernements et les régimes de ces pays. Lorsque les 200 premiers colons anglais après entente avec les chefs noirs locaux, s'établirent dans ce qui est aujourd'hui la Rhodésie, ils trouvèrent une population complètement illettrée, en proie à des épidémies, sans aucune mesure d'hygiène, livrée aux incursions de trafiquants arabes d'esclaves, aucun système de transport, aucune agriculture digne du nom. Il n'y a pas encore 80 ans de cela, et déjà, c'est un pays parsemé d'écoles, tant pour les Noirs que pour les Blancs, avec une université multiraciale et des facilités de s'instruire ouvertes à tous, des hôpitaux modernes, protection des gens et de leurs biens contre les pilleurs et les bandits. Qui donc peut parler d'exploitation ou d'oppression de la population indigène quand cette population de 400 000 en 1890 est aujourd'hui de 4 millions, décuplée en 67 ans, dans l'espace de deux générations seulement? Le progrès remarquable et rapide de ce pays a été réalisé et financé presque exclusivement par les colons et leurs descendants, aujourd'hui au nombre de 220 000, sans avoir rien coûté à l'Angleterre. Au cours de la dernière guerre, l'Angleterre n'a pas eu à fournir un sou ni un homme à la Rhodésie. C'est au contraire la Rhodésie qui a fourni des soldats et des aviateurs à l'Angleterre, et parmi eux, justement, l'actuel premier ministre de la Rhodésie, l'honorable Ian Smith, qui s'enrôla dans l'aviation royale britannique et se distingua à l'action. Il y a trois ans, en 1964, l'Angleterre accorda l'indépendance à la Zambie et au Malawi, deux pays qui avaient été fédérés à la Rhodésie pendant 10 années. Mais le même gouvernement anglais, Darrell Wilson, refusa cette indépendance à la Rhodésie tant que ce pays, dit-il, serait administré par la minorité blanche au lieu d'être l'élu de la majorité noire. Il n'y a nullement discrimination de race en Rhodésie. Il est vrai que tous n'ont pas le droit de vote, mais les conditions pour l'avoir sont les mêmes pour tous, blancs comme noirs. Il faut au moins savoir de quoi il est question quand la population est appelée à se choisir un gouvernement. En Rhodésie, la Constitution, établie d'ailleurs de concert avec le gouvernement de Londres en 1961, exige un minimum d'instruction, à peu près ce qu'apprend chez nous un écolier en troisième année. Et si ce minimum est actuellement atteint par plus d'adultes de la minorité blanche que par des adultes de la majorité noire, on peut prévoir que graduellement, c'est le contraire qui arrivera. La fréquentation scolaire, en effet, se généralise de plus en plus, et les écoliers d'aujourd'hui, ce sont les électeurs de demain. Il n'y a pas non plus de dictature policière en Rhodésie. Un Américain de marque, Frank Johnson, rentrant d'un séjour en Rhodésie, écrit: les quelques agents de police qu'on rencontre sur les rues sont des Noirs autant que des Blancs et aucun n'est armé. Le premier ministre Ian Smith sort dans sa propre voiture, sans garde de corps et sans le moindre souci de sa sécurité personnelle. C'est d'ailleurs avec non seulement l'assentiment, mais l'appui fortement exprimé des chefs de tribu que, devant le refus persistant du gouvernement de Londres, et après des essais de négociation qui n'aboutissaient pas, Ian Smith et son gouvernement décidèrent de proclamer unilatéralement l'indépendance de la Rhodésie. Satisfaits du traitement de la population noire par le gouvernement de Salisbury, les chefs voulaient qu'il eût pleine autorité pour protéger leur tribu contre les déprédations, le pillage, les meurtres, le terrorisme exercé sous couvert de nationalisme par des agitateurs qui ne sont que des instruments importés de la conspiration révolutionnaire mondiale. L'indépendance fut proclamée le 11 novembre 1965. Qu'advint-il après cela du côté de Londres? Harold Wilson n'osa pas aller jusqu'à envoyer des soldats anglais combattre les Anglais qui ont porté la civilisation en Rhodésie, mais pour essayer de calmer les aboyeurs qui qui réclamait cette intervention, il leur promit de faire tomber le gouvernement Smith en imposant des sanctions économiques contre la Rhodésie, en empêchant la Rhodésie de recevoir le pétrole et autres produits d'importation dont elle a besoin, et en refusant les produits qu'elle voulait exporter. Wilson escomptait que l'affamation et le chômage qui en résulteraient feraient une révolution de la population blanche et noire de la Rhodésie contre le gouvernement actuel de Salisbury. L'Angleterre reçut en effet l'appui de plusieurs pays, ceux du Commonwealth, les États-Unis et quelques autres. Ce fut un échec. Harold Wilson avait promis à la meute que Smith serait à genoux dans les 6 mois. Après 2 fois 6 mois, malgré les effets sûrement désagréables des sanctions, la population rhodésienne était plus unie que jamais autour de son premier ministre. La meute redoubla ses cris. Plusieurs des nations africaines, membres du Commonwealth britannique, menacèrent de quitter le Commonwealth si Londres ne prenait pas des mesures rigoureuses et rapides pour venir à bout de la Rhodésie. Wilson porta alors la question rhodésienne devant le Conseil de sécurité de l'ONU, demandant à cette organisation internationale de rendre obligatoire pour ses 122 pays membres l'application des sanctions économiques contre la Rhodésie. Wilson contredit ainsi sa propre thèse. Il soutenait que la Rhodésie demeurait juridiquement colonie britannique. C'était donc une question de politique interne. Or, l'ONU n'a aucune juridiction pour se mêler de la politique intérieure de n'importe quel pays, membre ou non de cette institution. Mais la maçonnique ONU ne se fait aucun scrupule de violer ses propres règlements, et son conseil de sécurité vota la motion de Wilson. C'était dans les derniers jours de décembre dernier. Le gouvernement américain, qui n'avait pu obtenir la collaboration de l'Angleterre pour ses propres sanctions économiques contre le Cuba communiste, ni contre le Vietnam Nord communiste, a eu la bassesse d'appuyer Londres dans sa demande de sanctions contre la Rhodésie anticommuniste. Disons que les Américains ne semblent point du tout satisfaits de cette décision. Depuis le vote de l'ONU, ils multiplient dans des journaux de leur pays, et même par des discours de sénateurs, leur condamnation de l'attitude du président Johnson dans l'affaire rhodésienne, et leur dénonciation sont appuyés de solides arguments. Un prochain numéro de Vers demain citera une longue liste de ces dénonciations, en même temps qu'une exposé plus détaillée de l'affaire rhodésienne. La question est d'importance, car c'est un autre point du globe où une explosion peut éclater, risquant le sort du monde libre tout entier, surtout quand l'hypocrisie et la trahison enrôlent les gouvernements de pays libres au service de la conspiration maçonnique et communiste internationale.
Mes amis, nous venons d'entendre M. Louis Hébin, notre directeur général au journal Vers demain.